Merci d'avoir choisi RFI. Il est 14h10 à Paris, 8h10 à Port-au-Prince. Tout de suite, le journal d'Haïti et des Amériques. C'est avec vous, Pauline Glaise. Bonjour.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous. À 2 mois après sa grâce, Alberto Fujimori va de nouveau être confronté à la justice. Un tribunal a ordonné que l'ancien président péruvien soit jugé pour le meurtre de 6 personnes dans les années 90. Pour ou contre le port d'armes pour les professeurs, c'est ce qu'envisage la ministre américaine de l'Éducation. Aux États-Unis, 42% des citoyens y sont favorables. On le verra dans votre revue de presse, Romain Lemareski. Bonjour.
Bonjour Pauline, bonjour à tous.
Au sommaire également, les mesures pour lutter contre la criminalité dans l'état de Rio de Janeiro. Le scandale Oxfam en Haïti et puis nous irons au Chili dans un hôpital où la médecine traditionnelle mapuche est pratiquée. Il a été gracié le 24 décembre dernier, après 12 ans de prison, officiellement pour raison de santé. L'ancien président péruvien Alberto Fujimori pourrait de nouveau être condamné. Il va être jugé pour le meurtre de 6 paysans en 1992. Retour sur les faits avec notre correspondant régional Eric Sanson.
Il s'appelait Ernesto John Toribio César Pedro Efelando. Ils étaient âgés de 17 à 38 ans et vivaient près de Pativilca, un village au nord de Lima. Les 6 hommes, 3 paysans, un étudiant, un chauffeur et un professeur, ont été enlevés de force de leur maison le 29 janvier 1992 à l'aube. Accusés par un propriétaire terrien local d'être membre de la sanglante guérilla maoïste du Sentier Lumineux, ils ont été torturés et assassinés par les membres d'un escadron de la mort, connu comme le groupe Colina. Il y a 10 ans, un ex-membre du groupe, Jorge Ortiz, a confessé avoir participé au massacre. Il a indiqué avoir agi sur ordre de l'ex-général Hermosa Rios, qui dépendait lui-même directement de l'ancien président Fujimori. Accusé pour cette raison d'être l'auteur intellectuel du massacre, Alberto Fujimori doit être jugé ainsi que 23 autres personnes. Selon le parquet, le droit à la grâce pour raison humanitaire ne s'applique pas dans ce cas. Ayant proposé sans succès que son client ne comparaisse qu'en qualité de témoin, l'avocat d'Alberto Fujimori a annoncé son intention de faire appel. Selon lui, l'ancien président a pris la décision de manière absolument calme. Eric Sanson, Quito. RFI.
L'annonce de ces poursuites fait bien sûr la une de la presse au Pérou. On fait le tour des réactions dans votre revue de presse, Romain Lemaresquier. Romain, pour l'instant, la presse locale se fait écho des réactions dans le camp de l'ancien président.
Oui, la Repubblica reprend ainsi les déclarations de Keiko Fujimori, fille d'Alberto et candidate malheureuse à la dernière élection présidentielle. Elle dit lamenter la décision de ce tribunal et espère que son père pourra se présenter en homme libre à un procès qui ne doit pas souffrir de pression politique, explique-t-elle. Son frère Kenji, qui ne fait plus partie de la même formation politique, ne s'est pas prononcé directement, détaille El Comercio, mais des proches du fils de l'ancien président n'ont pas hésité à dénoncer cette décision, arguant que le pouvoir judiciaire était politisé et que cette justice ne traitait pas aussi durement les terroristes, selon le quotidien. Les premières audiences dans ce procès devraient se tenir dans les tout prochains jours, annonce d'ores et déjà Peru 21.
On reviendra donc sur cette affaire dans le journal d'Haïti et des Amériques. RFI, il est 10h13 à Rio de Janeiro. Au Brésil, la Chambre des députés a voté cette nuit en faveur du décret présidentiel très controversé qui met l'ensemble des forces de l'ordre entre les mains de l'armée à Rio. Une décision prise pour tenter de freiner la recrudescence de criminalité dans cette ville très touristique. Le vote doit encore être confirmé au Sénat, mais le décret est déjà en vigueur. Correspondance de François Cardona.
Appuyés par des blindés et des jeeps, des centaines de soldats, le visage souvent masqué d'une cagoule, se sont déployés sur les grands axes routiers de la banlieue de Rio. Après une longue nuit de débats, les députés ont finalement appuyé l'intervention fédérale qui donne à l'armée le contrôle sur l'ensemble des forces de l'ordre de l'état de Rio de Janeiro. Le général Braga Neto occupe désormais la fonction de secrétaire à la sécurité publique, charge à lui de réduire la criminalité sans exacerber la violence endémique qui règne dans les quartiers défavorisés où s'affrontent tous les jours policiers et trafiquants de drogue. Pour faciliter le travail de l'armée, le gouvernement envisage de mettre en place des mandats de perquisition collectifs qui permettraient aux policiers et militaires d'obtenir l'autorisation d'un juge de fouiller toute une rue ou même un quartier entier, non plus une simple maison. Une mesure extrêmement controversée proposée par le ministre de la Défense. La ministre des Droits de l'Homme, elle, a décidé de démissionner de son poste. Elle était la seule femme noire du gouvernement et elle ne sera pas remplacée. François Cardona, Rio de Janeiro, RFI.
Un retour à notre revue de presse avec Romain Lemaresquier. Romain, vous nous faites traverser la frontière et on va au Venezuela. Même si ce n'est pas encore officiel, les principaux partis de l'opposition devraient boycotter la prochaine élection présidentielle prévue le 22 avril.
Oui, c'est notamment à la une d'El Nacional. Les 3 principales formations de la MUD, la coalition de l'opposition, devraient annoncer dans les prochaines heures leur décision de ne pas participer à ce scrutin. On ne peut pas valider un processus électoral sans observateurs internationaux, sans garantie démenti quant aux listes d'électeurs, sans audit et sans les conditions que nous et même la conférence épiscopale vénézuélienne réclamons, explique un membre de cette coalition. Les formations politiques ont jusqu'à mercredi inclus pour préinscrire leurs candidats auprès du Conseil national électoral. Et puis, selon Talqual, le parti UNT ou Nuevo Tiempo aurait également décidé de ne pas participer à cette élection, convoquée par une assemblée constituante qu'elle ne reconnaît pas. Des défections qui font craindre le pire au sein de la société civile, comme le détaille El Nacional, même si de nombreuses initiatives sont lancées ces derniers jours.
Et en attendant la présidentielle, Nicolas Maduro, le président, a proposé à son homologue Donald Trump de le rencontrer. C'était sur Twitter. Cette main tendue survient alors que les relations entre les deux pays sont au plus bas. On va d'ailleurs aux États-Unis avec ce sondage publié ce matin par le Washington Post sur les Américains et les armes à feu. Une enquête réalisée, il faut le noter, après la tuerie de mercredi dernier qui a coûté la vie à 17 personnes dans un lycée de Floride.
Oui, un sondage réalisé pour le Washington Post et la chaîne ABC. Et selon cette enquête, 6 Américains sur 10 pensent que le Congrès et le président Donald Trump n'en font pas assez pour éviter des tueries de masse, avec une majorité d'Américains qui continuent de dire que ces tueries sont liées au manque de vérification des antécédents psychologiques. Ils sont 77% à penser que ce drame aurait pu être évité si des mesures de dépistage des maladies mentales et des traitements adéquats avaient été mis en place. 58% des personnes interrogées estiment qu'un encadrement plus strict des ventes d'armes aurait évité la mort de ces 17 personnes. Enfin, 42% des Américains sont d'accord avec la proposition de la ministre de l'Éducation, Betsy DeVos, qui envisage d'autoriser les professeurs à porter des armes dans l'enceinte d'une école. Un sondage qui en dit long sur le décalage qui existe entre la société américaine et la société européenne, par exemple. Cette enquête rajoute tout de même un peu de pression sur la Maison-Blanche, estime le Washington Post, une administration qui a annoncé hier qu'elle soutenait les efforts du Congrès pour renforcer les contrôles des antécédents des personnes qui souhaitent acheter des armes.
Et toujours aux États-Unis, la presse s'interroge sur la manière dont les Russes perçoivent l'enquête sur les ingérences de leur pays dans la dernière élection présidentielle américaine.
Oui, c'est le Los Angeles Times qui s'est penché sur cette question et selon le quotidien, les Russes ne se gondolent pas de rire, contrairement à ce qu'affirmait Donald Trump dans un tweet après que l'enquêteur spécial Robert Mueller ait inculpé 13 ressortissants russes dans cette affaire. Une réaction similaire à celle du Kremlin qui, sur un ton tout sauf amusant, estimait hier que ces inculpations n'étaient fondées sur aucune preuve. Selon le Los Angeles Times, les Russes en ont marre de cette affaire. Ils seraient d'ailleurs nombreux à estimer que leur gouvernement n'est pas assez puissant pour menacer les institutions américaines. Reste que cette enquête empoisonne les relations entre ces deux pays. C'est une obsession, estime le fondateur de la revue Russia in Global Affairs, qui parle de conséquences désastreuses dans les relations entre ces deux pays. Une relation qui est déjà dans une impasse, selon lui.
Merci Romain Lemaresquier.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
L'actualité haïtienne avec le retour cette semaine de Godson Pierre, fondateur d'Alter Press. Bonjour Godson.
Bonjour.
À la une, la condamnation sans réserve des abus sexuels qui éclaboussent l'ONG Oxfam par les féministes haïtiennes.
La solidarité des femmes haïtiennes s'offusque devant les révélations de conduites répréhensibles et d'abus sexuels impliquant des employés d'Oxfam en Haïti au lendemain du séisme de 2010. Elle dénonce et condamne ces actes qui vont à l'encontre des principes qu'elle a toujours défendus durant ses 30 ans d'existence. La SOFA exige que l'affaire soit introduite devant la justice haïtienne et demande à l'État de prendre ses responsabilités.
Le gouvernement qui a reçu hier un responsable de l'ONG. Mais Godson, l'organisation féministe en profite aussi pour pointer du doigt l'orientation de l'aide humanitaire.
Pour la SOFA, le scandale démontre que l'aide humanitaire suite au séisme de 2010 a été un espace de domination des étrangers sur les Haïtiens fortement éprouvés. Elle dénonce ce qu'elle qualifie de dérive des ONG qui tenterait depuis plusieurs années de remplacer les organisations locales sans prendre en compte les réalités, les expériences, les valeurs culturelles et les compétences locales.
Et cette position rejoint celle du politologue belge Frédéric Thomas qui a publié une tribune sur Alter Press.
Le scandale s'inscrit dans le contexte de dénonciation des agressions sexuelles envers les femmes, mais il constitue également un révélateur de la place qu'occupe l'humanitaire aujourd'hui et de son fonctionnement. L'aide se déploie le plus souvent dans des pays comme Haïti, marqués par la pauvreté, les inégalités, la dépendance de l'État. Loin d'y échapper, elle tente à se baser sur ces inégalités et à les reproduire fait remarquer Frédéric Thomas. Il met cependant en garde également contre le lynchage précipité et injuste d'Oxfam, instrumentalisé, dit-il, par ceux qui veulent couper les budgets inutiles de la coopération au développement et qui visent ainsi à rompre la solidarité Nord-Sud et faire taire la critique politique des inégalités.
Allez, on passe à un tout autre sujet, Godson Pierre. Haïti accueille un prix Nobel de littérature cette semaine, le Nigérian Wole Soyinka.
Le grand écrivain, âgé de 83 ans, est arrivé hier à Port-au-Prince. Il reste une semaine en Haïti où il participe à différentes activités, notamment les rencontres d'ici et d'ailleurs. Il s'agit d'une série d'échanges organisés par Laboratorio Art Contemporain, une association internationale qui promeut les coopérations interculturelles entre l'Afrique, l'Europe et la Caraïbe. En marge de ces activités culturelles, Wole Soyinka doit être reçu aujourd'hui par le président Jovenel Moïse au palais présidentiel. Des échanges sont prévus avec des intellectuels, journalistes, écrivains et comédiens haïtiens à la capitale ainsi qu'en province.
Un mot enfin sur les incendies de marché à répétition à Port-au-Prince.
Deux incendies en effet en moins d'une semaine, laissant des petits et moyens commerçants aux abois. Le soutien des autorités tarde cruellement à s'organiser malgré les pressions exercées par des victimes, alors que l'origine des incendies demeure confuse. La Chambre de commerce des femmes entrepreneurs d'Haïti appelle le pouvoir en place à adresser ce nouveau défi dans toute son acuité. Elle invite les autorités à faire preuve de leadership pour que les principaux marchés du pays soient dotés d'un système capable de faire face aux incendies.
Merci Godson Pierre, on vous retrouve la semaine prochaine sur Radio France Internationale. Au Chili, la médecine traditionnelle des Indiens Mapuche, principale minorité indigène du pays, est de plus en plus reconnue. Autrefois méprisée, cette médecine ancestrale a été confrontée à une baisse du nombre de praticiens dans les communautés indigènes et dans les zones rurales. Mais depuis une vingtaine d'années, de nombreux efforts sont faits pour tenter de la rendre plus accessible dans les services de santé publique. Un effort tout particulier est réalisé dans la région d'origine des Mapuche, la Araucanie, où ils représentent près de 60% de la population. Là-bas, un service de santé mapuche a été créé à l'hôpital interculturel de Nueva Imperial et depuis 11 ans, les patients y sont chaque année plus nombreux. Reportage de Justine Fontaine.
Il est à peine 8h du matin et la salle d'attente est déjà pleine. Plus de 50 personnes sont venues récupérer des médicaments à base de plantes ou bien attendent une consultation. Dans l'une des salles, Blanca Cagno reçoit en habit traditionnel mapuche avec de lourds bijoux argentés. Elle est machi, c'est-à-dire qu'elle pratique la médecine traditionnelle des Indiens mapuche.
Quand on arrive, il ne faut jamais s'asseoir tout de suite. Il faut toujours remercier Dieu d'abord de nous avoir permis de vivre cette journée. Je travaille en analysant l'urine des personnes. À partir de là, je vois quelle maladie a le patient, quelles herbes je peux lui donner pour l'aider.
Depuis 8 ans, une fois par semaine, elle reçoit à l'hôpital interculturel de Nueva Imperial. Pourtant, au début, elle était plutôt réticente.
L'équipe de l'hôpital est venue me chercher dans ma communauté. Ils sont venus 3 fois chez moi. Au début, je n'ai pas accepté ce travail parce que je reçois les patients chez moi tous les jours. Mais ici, ils avaient vraiment besoin d'une machi. J'ai réfléchi et finalement, j'ai accepté parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de malades. Et voilà, maintenant, ça fait longtemps que je travaille ici.
Aujourd'hui, 22 praticiens mapuche se relaient au sein du centre et reçoivent environ 400 patients chaque semaine, gratuitement. Une fierté pour Rosendo Melian, l'un des directeurs et cofondateurs du centre, investi depuis près de 20 ans dans ce projet.
Ça a été très difficile, 10 ans avant que ce projet se concrétise. Un hôpital mapuche avec une culture mapuche, c'est très difficile de faire comprendre ça aux Occidentaux parce que nous sommes différents.
Et si l'idée est née avant tout pour faciliter l'accès des Mapuches à la santé, aujourd'hui ils ne représentent que la moitié des patients reçus ici. Rosemary Monroy, une habitante de la région, ne se considère pas Mapuche, mais elle est venue soigner ici de violents maux de tête dont elle n'avait jamais réussi à se débarrasser avec la médecine dite occidentale.
Je prenais beaucoup de médicaments, mais cela n'avait pas d'effet sur mes maux de tête. Donc je suis venue ici, ils m'ont donné un traitement à base d'herbes, et je n'ai plus mal à la tête maintenant. J'ai aussi les mains et le visage beaucoup moins gonflés qu'avant.
Comme Rosemary, beaucoup de patients arrivent au centre par le bouche à oreille, mais certains sont aussi orientés depuis d'autres services de santé dits occidentaux. Les équipes du centre, elles, envoient parfois des patients qui ont besoin de chirurgie, par exemple, et aimeraient développer davantage les contacts entre les deux types de médecine. Justine Fontaine, de retour de Nueva Imperial, RFI.
Après le Chili, direction les Caraïbes pour le journal de l'Outre-mer. Et c'est avec la première. Bonjour Edwige Saint-Thomas.
Bonjour Pauline, bonjour à tous.
À la une, Edwige, le soulagement des usagers des bus de l'agglomération de Fort-de-France. Les conducteurs reprennent le travail aujourd'hui.
Oui, pendant deux jours, ils ont exercé leur droit de retrait suite à l'agression d'un de leurs collègues samedi dernier. La circulation reprend donc aujourd'hui dans l'attente du jugement de l'auteur des faits. C'est la troisième fois cette année que les conducteurs se mobilisent ainsi suite à des agressions. Écoutez le témoignage d'une des victimes, elle s'appelle Lydia, elle est au micro d'Alain Livory de La Première en Martinique.
Le ressenti que j'ai, c'est la peur. La peur, parce que on est confronté à des agressions, ne serait-ce que verbales, en permanence.
Et vous, ça a été plus loin?
Moi, ça a été plus loin. J'ai subi un braquage à main armée.
Avec une arme de poing?
Une arme de poing, tout à fait, tout à fait. Et ce jour-là, ils m'ont volé la caisse, quand j'avais 40 euros dans la caisse.
Au total, 48 agressions ont été constatées sur le réseau de bus. L'an dernier, 24 ont nécessité des arrêts de travail. Tout à fait autre chose à présent, le secteur touristique se porte bien en Martinique. Les indicateurs sont au vert après une bonne année 2017. Les précisions, Martinique la Première de Maurice Violton.
Les autorités touristiques parlent de 2017 comme étant une année record pour la fréquentation. Un peu plus d'un million de visiteurs. La recette, l'ouverture de nouvelles lignes vers d'autres villes, l'Amérique du Nord grâce au Canada et aux États-Unis. Les Nord-Américains représentent désormais près de 7% de nos visiteurs alors qu'ils étaient à peine 2,5% en 2014. Chiffre en augmentation aussi avec l'Europe. Et les touristes européens hors France, c'est 8,8% de cette fréquentation. Les seuls Français de l'Hexagone, leur poids diminue, 66,5% l'an dernier, 12 points de moins. Ces touristes dépensent un peu plus d'argent lors de leur passage chez nous. Dépense moyenne estimée aujourd'hui à 750 euros, c'est un gain de plus de 10%.
Parmi les axes retenus pour développer le tourisme en 2018 figure l'amélioration de la desserte aérienne et de l'image de la Martinique. Et puis le nouveau recteur de l'Académie de Guadeloupe a pris ses fonctions officiellement hier. Mostafa Fourard en a profité pour présenter sa feuille de route. La priorité sera donnée au premier degré. Il y aura aussi la mise en œuvre de la réforme du baccalauréat ou encore la remise en état des établissements de Saint-Martin dévastés par l'ouragan Irma. Mostafa Fourard.
La problématique est essentiellement pour le moment, permettre aux enfants d'être scolarisés dans des conditions normales et plus particulièrement dans certains établissements qui ont été pratiquement rasés, détruits. Du travail doit être fourni, développé avec les collectivités locales, avec les services de l'État, la préfecture, pour essayer de faire en sorte que d'abord les conditions s'améliorent pour l'accueil des enfants. J'irai personnellement la semaine prochaine, je l'espère, sur place pour me rendre compte de la situation.
Mostafa Fourard répondait à Pascal Pétrine de Guadeloupe Première. C'est la fin de ce journal. Excellente journée.
Merci Edwige Saint-Thomas. À demain. Un œil enfin sur les JO de Pyeongchang. Les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir, déjà médaillés d'or il y a 8 ans à Vancouver, ont été sacrés champions olympiques de danse sur glace. Après les Français en argent, les Américains Maya et Alex Chibutani complètent le podium avec la médaille de bronze. De l'or pour le Canada également en ski halfpipe. Cassie Sharp est montée sur la plus haute marche du podium. Ainsi s'achève le journal d'Haïti et des Amériques. Tiffany Minta était aux manettes. Vous retrouvez ce journal sur notre site internet www.rfi.fr et sur la page Facebook de votre rendez-vous des Amériques. Merci de votre fidélité. Dans 30 secondes, le retour de l'actualité.
Découvrez musique.rfi.fr.
Retrouvez toutes les infos, la biographie, les vidéos et les émissions de RFI consacrées à Laurent Garnier sur musique.rfi.fr. Vibrez en temps universel.